Les 33 tours, notre premier invité connaît ça. Michel Daunet tient la chronique Vinyle au magazine TED pour Tendance électronique et design, un média que lisent les audiophiles et les tripeux de systèmes de son. Michel est aussi programmeur senior chez Audiokinétique et c'est le numéro 1 mondial dans les logiciels de musique de jeux vidéo qui ont notamment comme clients des grands joueurs comme Ubisoft. Alors bonjour Michel!
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Alors Michel, au fil du temps, on parle bien sûr des différentes générations et j'étais curieuse qu'on parle ensemble de comment notre consommation musicale a évolué au fil du temps. Et est-ce que je me trompe si un des plus gros changements, c'est le streaming ou dite musique dématérialisée?
Oui, totalement. En fait, la musique dématérialisée a commencé son évolution à partir des CD. Puis à partir, lorsqu'on a commencé à acheter nos disques compacts, éventuellement, on a eu un ordinateur, puis on voulait les mettre sur notre ordinateur pour pouvoir y avoir accès toujours et pouvoir faire nos playlists. Mais dans le fond, ce principe-là existait toujours avant. On avait simplement des cassettes. Donc, on prenait un disque puis on mettait ça sur des cassettes. C'est la même chose qu'aujourd'hui, on a avec les playlists qu'on a sur nos ordinateurs. Puis, c'est pas mal intéressant parce que, justement, cette évolution-là a continué avec le streaming, justement, qu'on va retrouver aujourd'hui avec les iTunes, les Tidal, les Spotify de ce monde, même YouTube en même temps. La majeure partie des adolescents vont écouter leur musique sur YouTube. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, on se retrouve avec, dans le fond, des playlists qu'on va retrouver à travers le monde, de chansons à travers le monde, pas juste local, pas juste ce qu'on a pu entendre, mais en même temps, ce qu'on peut retrouver à travers la planète. C'est vraiment intéressant.
Bien, c'est un des arguments de mes fils qui ont 17 et 27 ans. Eux, ils n'ont jamais eu de cassette. En fait, je pense qu'ils n'en ont jamais vu tenu dans leurs mains ou de disques. Et ils argumentent sur le fait qu'ils ont accès à plus de découvertes musicales a priori. Mais en même temps, Isaac Analem, on discutait de ça, Maurice et moi, on se dit « Mais est-ce que c'est un algorithme de me suggérer des chansons, sachant qu'il me suggère quelque chose que j'aime déjà? »
Bien sûr, et c'est exactement le but de ces systèmes-là. Si moi, je suis un admirateur de la musique classique, et si j'écoute, par exemple, je vais y aller avec le classique Beethoven, Mozart, donc les romantiques des années 1800 et un petit peu avant, si je me retrouve avec une chanson de The Clash en plein milieu, je crois pas que les algorithmes vont avoir fait un bon travail. Donc, le but de ces algorithmes-là, c'est un petit peu comme ce qu'on a décrié sur Facebook. Soit quand on commence à parler d'un genre un genre de matériaux, si on aime quelque chose en particulier, Facebook va continuer de nous alimenter avec ça. Si on va sur YouTube et on dit j'aime ça voir des recettes de gâteaux, ben YouTube va continuer à t'envoyer des recettes de gâteaux, c'est ce que tu veux. Donc éventuellement tu demandes à Spotify d'avoir de la musique de Beethoven constamment, ben tu vas avoir la même chose. C'est donc tout à fait normal. Et ces systèmes-là, en fait, plus ils nous proposent des choses dans lesquelles on est confortable, mieux ils gagnent leur pain avec ça. Ce n'est pas leur but de nous brusquer dans leur démarche.
Mais en même temps, il y a des playlists de découvertes musicales. Je pense à mon grand ami Eric qui écoute chaque semaine là, ses découvertes musicales. Et il me dit qu'ensuite, ça lui permet d'acheter de la musique. Parfois, il achète ses vinyles avec des suggestions que Spotify lui a fait. Puis lui, c'est vraiment, là, ça en est vraiment un tripeux, là, de s'asseoir, écouter de la musique. Il y a un système de son avec des drôles de tubes, là, que je comprends pas. Mais c'est vraiment un audiophile. Mais si je me posais aussi la question, est-ce qu'on écoute autant la musique sur du streaming qu'on pouvait vraiment l'écouter quand on écoutait sur un système de son avec le vinyle et autres?
C'est une excellente question. En fait, c'est vraiment l'opposé qui se produit. On écoute beaucoup plus de musique aujourd'hui, mais c'est de la musique qui est plus, je vais dire, consensuelle par rapport à nos goûts. Donc, c'est quelque chose qu'on va plus apprécier en règle générale. Maintenant, le gros avantage du streaming, c'est que ça nous permet de découvrir de la musique à travers la planète. Donc, si on s'intéresse à aller voir les sous-sections à l'intérieur des différents sites, par exemple Spotify et Tidal et tous ces systèmes ont des sections nouvelles musiques, nouveautés musicales dans lesquelles des gens vont dire « Ah, ça, ça peut être intéressant de présenter ça ». Donc, c'est un petit peu la même chose que la radio. En fait, quand on était, on écoutait la radio, ou quand on écoute encore aujourd'hui
ben
la
oui,
radio,
à Canal M.
Bien sûr, on reçoit des nouvelles pièces musicales qu'on ne connaît absolument pas, et ça nous permet de découvrir différentes pièces musicales. Donc, même si on l'écoute uniquement sur Dune, éventuellement, il y a une pièce musicale qui va nous intéresser, qui va nous dire, va nous décrocher de notre monde, va venir nous rechercher et dire « Ah, oh, c'est intéressant, j'aimerais ça pouvoir l'écouter celle-là ». Et justement, la musique dématérialisée nous permet ça. Donc ensuite, on peut faire les recherches, on peut déjà avoir les services à la Shazam dans lequel on va pointer notre téléphone sur le système. Mais sinon, on peut toujours aller aussi sur les différents postes de radio. Les postes de radio vont toujours donner la liste des dernières choses qui ont été jouées. Et on peut aussi ensuite aller découvrir ça, aller sur son YouTube ou son Spotify et aller essayer de voir un petit peu plus sur ces artistes-là. C'est vraiment une ouverture qui nous permet de ne pas aller voir notre magasin de disques. Donc, il y a beaucoup plus de musique parce que tout le monde en écoute constamment. En fait, c'est un petit peu la même chose qu'en radio. Donc, quand on est dans notre auto, quand on est dans la maison, on écoute ça tranquillement, on a quelque chose d'intéressant, puis là, éventuellement, on entend des choses. Donc, c'est des gens qui ont décidé de nous faire écouter quelque chose, soit parce que c'est une entente avec un label de disques, soit parce que c'est une ouverture d'esprit, puis dire « Ah ouais, j'ai le goût d'essayer quelque chose », mais éventuellement, cette playlist-là va se retrouver chez nous. Alors, les YouTube, les Spotify, ils vont faire exactement la même chose.
Bien, je pense que ça amène la notion de curiosité parce qu'on a eu un invité au fil du temps qui disait qu'en vieillissant, on gagnait à essayer d'écouter des choses qu'on ne connaît pas, justement pour élargir notre cerveau puis à rester dans la nouveauté. Et moi, j'aime particulièrement Maurice Bolduc ici, qui est en régie, me suggère des pièces musicales et j'aime ça parce qu'il m'amène à des endroits, des pièces, me faire connaître de la musique que je ne connais pas et je trouve ça rafraîchissant. Donc, ça veut dire qu'il faut être curieux.
Oui, définitivement. Et il y a aussi, par contre, l'opposé de ça qui dit qu'à partir de ta vingtaine, l'oreille arrête de vouloir rechercher des nouvelles choses. Mm-hmm. Les bonnes vieilles chansons arrivent environ quand on a 20 ans. Donc, quand on est à 40 ans, 50 ans, 60 ans, regardez ce qui se passait dans les années, dans votre vingtaine, et vous allez avoir habituellement le genre musical que vous allez aimer. Donc, allez sur les billboards, allez voir tout ça, allez voir dans les années 20, de votre vie. Et vous allez voir que c'est automatiquement des chansons que vous connaissez tous par cœur, même que vous l'aimiez ou non, que vous aimiez Britney Spears ou non, ou que vous aimiez telle personne ou non.
Mais il y a quand même justement un plaisir, des plaisirs même coupables à écouter de la musique qu'on aime. Mais je pense qu'il faut faire l'effort d'écouter quelque chose de différent. Et je pense que je vous ai mis au défi, Michel, de nous trouver une pièce musicale. On a parlé un petit peu de streaming, d'accès à de la musique d'ailleurs. Et je vais vous inviter à présenter la pièce musicale que vous avez choisie.
Bien sûr. Alors, c'est Rosa Luxembourg du groupe russe Mommy Troll. Ça existe depuis 30 ans, ce groupe-là. Mm-hmm. C'est vraiment un groupe, c'était dans les groupes dissidents de l'Union soviétique. Puis ce disque-là vient des années 1997, si je me rappelle bien. Et le gros avantage quand on parle de la puissance du streaming, c'est que si vous savez que le groupe s'appelle Mommy Troll, et que la chanson s'appelle Rosa Luxembourg, ça, bonne chance, parce que c'est écrit en cyrillique.
Oui, c'est ce que je me suis aperçu.
Vous allez pouvoir la retrouver, vous pouvez faire un Shazam dessus, vous allez l'avoir, quand pourtant c'est un groupe de Russie que normalement vous payerez $150 pour importer un disque vinyle avec eux.
Mm-hmm. Donc, on va écouter cette pièce musicale, puis au retour, j'aimerais qu'on parle justement le retour du vinyle, l'impact de tout ça, et puis aussi, bien, inévitablement, l'impact là, du streaming sur nos artistes. Alors, on écoute votre suggestion musicale, Rosa Luxembourg de Mommy Troll. C'était Rosa Luxembourg de Mommy Troll. C'est M-U-M-Y-M-I-Y Troll. Hey, c'est bon, Michel!
Je suis content que vous aimiez ça. C'est un des meilleurs groupes pop-rock, soft-rock, un peu punk russe des 30 dernières années. Mais il y en a plein comme ça que moi, je découvre puis que j'ai leur disque vinyle. Même chose que j'ai un groupe qui s'appelle Pizza, je veux dire évidemment en russe. Il y a plein de groupes comme ça que je découvre de tous les pays. C'est vraiment génial. Il n'y a pas juste les Fela Kuti qu'on peut retrouver de l'Afrique du Sud. On va avoir plein d'autres groupes à travers le monde et c'est ça qui est vraiment génial.
Absolument. Mais vous parliez de vinyle et évidemment, là, vous tenez la chronique Vinyle au magazine TED. C'est quoi ce buzz autour du retour du vinyle qui est rendu un objet vintage? Moi, j'ai l'impression que justement, avec la musique dématérialisée, on perd aussi la relation à l'objet et le rituel derrière écouter la musique. Moi, je me rappelais, j'aimais m'asseoir et donner rendez-vous à un artiste, lire la pochette, vraiment m'installer et découvrir.
Ah, totalement, vous avez raison, en fait. Et c'est un peu le gros du problème avec la musique dématérialisée, avec la musique qu'on a même sur des serveurs pour les gens qui ont vraiment des grosses collections, qui ont mis tous leurs CD à l'intérieur, c'est qu'on... c'est un petit peu un entre-deux. On dit beaucoup que les adolescents, ils n'ont même pas le temps de finir la chanson de 2 minutes, qu'ils veulent en mettre une autre. Ben, c'est un petit peu la même chose que tu as le goût de faire avec la musique dématérialisée. On se retrouve avec à pas vouloir finir plus qu'une pièce musicale qu'on veut déjà passer à un autre album. Donc, il y a quand même
une lenteur, une découverte, oui, de prendre le temps.
Exactement. Voilà, on n'a pas le choix de prendre son temps. Évidemment, on peut avoir 2 platines, puis là, ben, y aller puis faire du mix. Mais ça c'est vraiment quand on veut vraiment être lâcher son fou rendu là. Je dirais que on va d'abord mettre un bémol sur le vinyle et en fait sur le CD aussi. La raison pour laquelle le vinyle se retrouve en numéro 2 maintenant après la musique dématérialisée et avant le CD, donc il vend moins de CD que de vinyle aujourd'hui.
OK, d'accord.
C'est parce que le CD est en pleine décroissance complète. Les gens n'achètent plus de CD. Mm-hmm. C'est plus... En fait, si on prend les CD puis les vinyles, c'est même pas 10% des marchés.
Wow!
C'est donc, si on prend après le streaming et les téléchargements et les différents autres systèmes, là, on va se retrouver avec la très, 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 très grosse majeure partie des ventes aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'argent avec un CD. Évidemment, si on vend des CD, puis si jamais on en vend 1 million, ben on est un 0,01% de marché là-dedans. Mais d'un autre côté, on a quand même vendu 1 million de CD. Donc, ça reste quand même lucratif. Mais on va mettre le bémol que, en fait, c'est que c'est démesuré comme niveau présentement versus les systèmes qui sont, disons la musique physique versus la musique dématérialisée. Moi, j'achète des disques vinyles pour plusieurs raisons, évidemment, parce que d'abord, on peut retrouver une boîte gratuite de disques vinyles. On se rend chez notre... Ouais. On se rend chez notre fournisseur de disques qui nous connaît bien. Il dit « Ah, tiens, regarde, j'ai cette boîte-là, c'est tous des petits disques. » Commencer une collection avec plein d'excellents artistes, ça coûte rien.
Ouais.
Ensuite, on peut se rendre d'autres niveaux beaucoup plus loin et on peut dire que moi, quand j'achète un disque vinyle, je sais que je fais plaisir directement à l'artiste.
Ouais.
Donc, beaucoup plus d'argent qui va, il y a quelques dollars qui va à l'artiste directement versus la musique dématérialisée, que ça prend des millions de vues pour avoir une chance d'avoir quelques milliers de dollars.
C'est fou. C'est fou, je pense, entre autres, il y a Damien Robitaille, entre autres, là, qui amène de la joie dans notre vie, où il fait une chanson qu'on voit sur YouTube presque à tous les jours, que ce soit une reprise. Et il y a sa reprise de Pom Pom de Jam qui a atteint plus de 4 millions de vues. Mais bon, c'est un succès d'estime, mais l'impact financier de ça...
pas tant, hein? C'est ça le problème, en fait. C'est que l'argent ne va pas nécessairement directement à l'artiste qui va réaliser ça, parce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher, en fait, de faire la musique dématérialisée, et c'est des grands groupes qui vont s'en occuper. Mm-hmm. Ceci dit, si on prend Spotify, ils font beaucoup d'argent, mais non plus, ils roulent pas tant que ça sur l'or en tant qu'entreprise. Mm-hmm. Si on prend Tidal, ils sont presque en train de fermer. Donc, même si on dit ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent qui s'en va à ces différents aux artistes et qui devraient en avoir plus, le marché fait présentement que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent qui va aux artistes ou à personne qui fait de la musique. Nous, quand on se rend sur YouTube, on paye pas pour. Mm-hmm. Donc, il y a une publicité des fois au début, puis ben voilà, donc peut-être que ça va se retrouver aux artistes. Donc, il y a quand même une notion ici que ben il n'y a pas tant d'argent par le principe et encore par la façon que c'est fait qui peut être envoyé aux artistes. Moi, je vais y aller avec mes amis artistes aussi. Mm-hmm. Je veux dire, les grosses entreprises, je m'excuse, mais je peux les envoyer promener un petit peu. Gentiment, bien entendu, parce que pour moi, c'est les artistes, surtout ces années avec la COVID présentement. Mm-hmm.
Ah, c'est épouvantable, oui.
C'est vraiment épouvantable.
Il y a des limites à se réinventer, là. Ils peuvent pas donner de concerts. Ils vont faire des concerts en ligne, mais...
Ben non, c'est ça. Puis, il faut faire de l'argent éventuellement. Il faut faire quelque chose. Je prends mes amis de Lisbon Lux Records qui ont plein d'excellents artistes québécois, français, mm-hmm. d'un peu à travers le monde. Ils font des millions et des millions de vues sur YouTube. Mais eux, c'est des bandes, ils passent du temps à polir leur musique, ils ont de la production, ils ont des vidéoclips, ils ont les personnes qui travaillent sur les vidéoclips, ils passent des centaines et des centaines d'heures, beaucoup de matériel, beaucoup de choses.
Oui.
Et ils font des quelques milliers de dollars pour un vidéoclip, qui ont passé des dizaines de milliers de dollars à réaliser. Pourtant, il y a 1 million de personnes qui l'ont vu, le vidéoclip. Donc, éventuellement, il faut se dire, ben oui, on veut pousser à l'extérieur, on veut faire des choses, mais il faut éventuellement qu'il y ait un peu de retour qui revienne avec
absolument.
Là-dessus.
Michel, on va aller complètement ailleurs. On explore différentes générations ici au fil du temps. Puis peut-être pour ma dernière question, je vais aller vers les plus jeunes générations. Et ça tombe bien, ça fait partie de votre second, en fait, de votre autre métier. Mon fils écoute de la musique de jeux vidéo et mon massothérapeute m'a dit qu'il aimait ça écouter de la musique de jeux vidéo. Et là, je découvre que c'est ce que vous faites dans la vie. Fait que parlez-moi de ça.
Oui, bien sûr. Alors, autant je fais des chroniques vinyles du magazine Tête, parce que pour moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de faire partager l'univers des disques vinyles et surtout des disques neufs.
Oui.
Mais chez Audiokinétique, on réalise en fait un logiciel qui permet aux grands, donc les Ubisoft de ce monde, de pouvoir intégrer de la sonorité, de la musique à travers leurs produits sur toutes les plateformes, sur tous les systèmes. Donc, éventuellement, ben évidemment, si vous étiez dans les groupes de discussion à l'intérieur de l'entreprise, vous verriez qu'on s'envoie de la musique à tour de bras. Il y a un engouement, justement, sur la musique, autant très rétro que genre les Super Mario Bros. Et les musiques qu'on connaît toutes par cœur des années 80, que de la musique beaucoup plus moderne. J'ai beaucoup de disques ici de musique, justement, pour faire les deux. J'ai des musiques en vinyle de différents artistes et différents groupes et différentes productions de jeux vidéo.
Michel, on va devoir s'arrêter. C'est une discussion passionnante. J'adore la musique. Alors, on aura peut-être l'occasion de se reparler.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Michel Daunet du magazine TED.